Très bien, donc nous sommes un petit peu à l'heure du déjeuner, mais je sais qu'il y a de la glace à l'extérieur qui est toujours offerte, donc aucun problème, je pense que nous aurons une bonne séance, et nous avons un responsable du marketing qui est avec nous, donc nous allons beaucoup parler du questionnaire sur ce nouveau programme des GGTLD et de ce dossier de demande pour les candidats. Donc, nous avons un panel aujourd'hui. Nous voulons remettre cela en contexte également. Il y a, selon le personnel, un mode d'emploi qui ne va pas beaucoup être modifié dans la durée. Et il est donc temps de se préparer à lancer le programme et à l'utiliser. Donc, aujourd'hui, nous voulons nous familiariser avec le questionnaire. Et étant donné que c'est un très long document, on pourrait passer des heures là-dessus, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais nous allons nous familiariser un petit peu avec lui et nous allons parler des implications, des réponses à y apporter, des questions que vous pouvez avoir. Donc avant de vous présenter un petit peu le panel, je dois dire que c'est un outil qui va nous permettre de mieux gérer les noms de domaine DNS et de limiter les risques que vous pouvez encourir avec ces nouveaux noms de domaine. Il y a une section publique et une section non publique. Nous allons parler un petit peu de cela cet après-midi. Cela permet également de vendre cela un petit peu à la collectivité et de voir un petit peu quels sont les avantages de ce GGTLD. C'est la possibilité également de réfléchir aux objections que vous pourriez avoir. Donc, la session est enregistrée et il y a un scribe ici qui s'occupe de tout noter et vous pouvez aller sur le site web pour avoir accès à cette séance. Vous aurez des questions qui seront posées de la salle et des questions qui seront posées à partir de l'Internet. Donc, merci beaucoup de cela. Parlons de l'ordre du jour. Nous avons une brève description un petit peu de ce document qui a été préparé pour ce manuel du candidat qui a été préparé pour les nouveaux GGTLD et les nouveaux noms de domaine. Mais à ma gauche, j'aimerais que Tom Berengen puisse se présenter. Je m'appelle Tom Berengen et je suis président de Insorta et je suis donc un registraire. Et je vais travailler avec les nouveaux GGTLD. Oui, merci beaucoup, Tom. Sarah Langston, je suis directrice de VeriSign, gestion des produits. Je travaille à VeriSign depuis 11 ans à peu près. Et je travaille à la gestion des CCTLD et au nouveau programme, bien entendu, des GGTLD maintenant. Je m'appelle John Matson et je suis PDG de Arc. Kitelos. Avant, je travaillais en tant que consultant pour l'évaluation d'ICANN, pour le soutien, pour les critères qui étaient utilisés ici, pour les questions techniques et financières. Mike Rumba, je suis juriste, j'ai une petite, petit cabinet juridique qui s'appelle Rodenbaugh Law. Et j'ai travaillé au Conseil qui a donc adopté tous ces éléments concernant les GGTLD. Je m'appelle Chris Wright et je suis de Registry International, je suis d'Australie. Et nous fournissons beaucoup de systèmes et de soutien aux différentes personnes demandant des nouveaux noms de domaine. Donc parlons un petit peu de la structure de ce mode d'emploi pour les candidats. Il y a quelques transparents qui vont vous indiquer les pages RTM. Donc lisez s'il vous plaît ce manuel. Il est important de bien le connaître. Donc il est important pour vous de bien comprendre que il faut lire la documentation, lire le document. Et j'ai une vie, mais néanmoins, j'ai lu dans l'avion, puisqu'il y avait des heures et des heures de vol, j'ai réussi à lire ce document de plusieurs centaines de pages. Il est important d'en prendre connaissance et de répondre à certaines questions qui seront très utiles. Donc pour remettre en contexte, le questionnaire, c'est à la section 2, ça fait 50 pages, et c'est véritablement quelque chose qui est très utile, qui vous dit un petit peu ce qui va être inclus et ce qui vous donne des notes sur les réponses possibles et qui vous indique les critères et tous les détails de scoring. Donc c'est un tableau qui est facile à comprendre, qui est étudié pour cela. Donc, en ce qui concerne ce que l'ICANN recherche, eh bien, c'est de répondre aux critères minimums. C'est ce que demande l'ICANN, c'est qu'il y ait une grande pertinence dans les limites d'espace qui puissent exister et qui existent. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous avons toutes les questions par section, le type de chaîne, les questions internes qui sont aux pages 30B à 50, qui mettent l'accent sur les opérations, le soutien financier pour les registraires. Et il y a à peu près 50 pages qui indiquent certaines sections. Technique, donc c'est assez long, c'est un document complexe, un document évidemment technique, ce n'est pas des réponses oui, non, ce n'est pas un document de ce type. Donc maintenant, voyons un petit peu quels sont les détails et voyons un petit peu les questions de 1 à 12, les informations concernant les dépositaires de dossiers, questions juridiques qui se posent, droit d'évaluation et également... C'est très complexe, il y a des stratégies qu'il faut prendre en compte. Quelles sont les considérations à prendre en compte? Je pose la question à John. Eh bien, vous devez être vivant et être une entité légale. Vous ne pouvez pas vous présenter en tant que personne morale. Donc, vous avez donc... un calendrier, un tableau chronologique pour faire votre dossier de demande et vous avez besoin de vous inscrire en tant qu'entité. Vous devez payer 5000 dollars à ce moment-là. Ça peut prendre une semaine et demie, une dizaine de jours pour avoir accès au système. Et à partir de là, vous devez donc répondre à beaucoup de questions. Mais il faut bien comprendre que ça va prendre du temps que de répondre à ces questions. Et donc... Sur 3 mois, vous ne voulez pas attendre le dernier moment pour répondre aux questions, bien entendu, puisqu'il n'y a que fenêtre d'ouverte de 3 mois. Donc, vous devez travailler avec vos dirigeants, avec les personnes qui ont des actions, peut-être, vos actionnaires, parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, tout doit être identifié. Donc, l'autre point, c'est que si... vous faites des changements matériels, vous devez absolument vous assurer que ICANN soit bien au courant. Mais il faut réserver donc votre emplacement. Alors, oui, Mike. les problèmes qui risquent, au niveau des noms de domaine, de survenir. Donc, ICANN a tout un processus à ce niveau. Et pourquoi une organisation ne serait pas éligible? Donc, la liste est longue. On est à la section 1,2 du guidebook, du mode d'emploi. Donc, c'est à deux niveaux que ça fonctionne. Et si ce n'est pas listé dans les 25 plus grandes, eh bien, vous avez réussi à passer l'examen. Vous allez pouvoir déposer votre dossier. Et comme l'a dit John, ce sont les partenaires, les actionnaires. Et donc, c'est pour éviter que les personnes aient des registrés, les personnes qui sont des criminels, qui ne sont pas des personnes de confiance, qui ont un dossier juridique, qui ont un casier judiciaire. Alors, vous savez, on a eu des problèmes dans l'industrie bancaire et ainsi de suite, mais c'est très large. Donc, c'est pour protéger les personnes qui ont commis des crimes financiers ces 10 dernières années. Donc, ça permet de s'assurer que ce sont des personnes de qualité et de bonne moralité qui déposent ces dossiers de demande. Et si vous avez commis des crimes dans l'utilisation des ordinateurs, de l'Internet, des télécommunications, de l'Internet et ainsi de suite, eh bien là, vous n'aurez jamais, jamais le droit de déposer un dossier de demande. Donc, c'est assez strict, ce sont des critères assez stricts, et c'est normal, ça c'est tout à fait positif. Et les... Si vous avez fait du cybersquatting, des actions illicites sur l'Internet, vous également, vous n'aurez pas le droit de faire cela. Donc, cela donne des exemples. Si vous avez plus de 3 problèmes, ou vous avez eu fait du hijacking, eh bien, et que ça soit dans les 5 dernières années, eh bien, 4 dernières années, eh bien, vous n'allez pas être accepté non plus. Donc, vous avez mentionné également ces 25 grands échanges. Donc, c'est un équilibre qu'on essaie d'obtenir. Si vous avez des criminels dans votre conseil d'administration, vous allez avoir des problèmes. Une personne qui... ont fait de la prison ou quoi que ce soit, ils ont été inculpés. Il faut savoir qui précisément vous allez présenter comme personne opérant cette entité. Très bien, d'accord. Donc, oui, pour assurer un suivi au niveau des droits d'inscription. On a parlé des 5 000 $, puis il y a la question des 80 000 $. Mais il y a la possibilité d'avoir des frais supplémentaires. Si vous avez une évaluation élargie, donc vous devez avancer des sommes. Mais ça va être basé sur les coûts. Et on vous remboursera ces sommes. Oui, pour que ça soit bien clair, il y a plusieurs critères qui vont permettre d'avoir plus longuement une possibilité d'avoir une disponibilité et vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec votre nouveau nom de domaine et ensuite rembourser donc les sommes engagées au départ. Donc, vous avez beaucoup de possibilités qui sont ouvertes à ce niveau-là. Donc, ceci dit, je crois que cela souligne bien ce qu'elle a dit Mike, mais il faut être très prudent de ce que votre équipe de management effectue et de qui est à votre équipe de management, parce que n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui n'auront pas la possibilité d'être acceptées à ce niveau. Donc, n'ayez pas de mauvaises surprises, préparez-vous bien vos dossiers pour ne pas perdre 80 000 dollars, ce qui représente quand même une somme.
En question 13 à 17, nommer le bébé, c'est une des tâches les plus difficiles. Si vous commencez une famille, et même chose ici, je suis sûr qu'il y a beaucoup de discussions dans les couloirs. Ce que les gens sur les noms des nouveaux GTLD. Une autre chose intéressante, et je crois qu'il y a des internationaux ici à Singapour, il y a la possibilité de voir des noms de domaine international avec la croissance dans beaucoup de pays qui n'utilisent pas le script latin. C'est un aspect important. J'espérais que Sarah allait nous parler des exigeants en matière de IDN, comment les choisir, ce processus-là. Merci, Fred. Oui, évidemment, l'introduction de ces nouveaux IDN, les IDN pour les nouveaux GTLD représente une opportunité et pour les registrars et les registrantes. Je voulais mettre en relief des questions qui utilisent les expériences de VeriSign en préparant nos demandes pour les IDN. VeriSign offre les IDN à gauche du point, mais tout ce qui est à droite du point est toujours en ASCII. VeriSign a décidé, donc, après beaucoup de réflexions, que ce n'était pas logique pour nous de faire simplement une traduction de .com en différentes langues et différents scripts. Ce ne serait pas logique dans la plupart des cas. Nous avons donc décidé que ce qui avait plus de sens pour nous était d'examiner les translittérations phonétiques. C'est plus lié au son, du son. Mais même après avoir choisi cette stratégie, on peut avoir des problèmes liés à une seule approche. Par exemple, dans le marché russe, la traduction .net, c'est .net, ça veut dire non, en russe. Donc, clairement, ce n'est pas un bon choix pour nous. C'est simplement pour vous dire que lorsque vous avez décidé sur une stratégie IDN, il y aura toujours des exceptions, il faut considérer chaque cas. Et remarquez aussi, pour ceux qui s'intéressent, veulent faire une demande pour un IDN GTLD, il y a beaucoup de références à A-Label, U-Label et Punicode conversion. Tout d'abord, pour expliquer ça, il faut comprendre que les DNS soutiennent seulement ASCII, le niveau A. Ça ne soutient pas le IDN ou version U. Il faut donc une conversion, ce qu'on appelle le Punicode version 2, qui prend le composant IDN dans quelque chose que le DNS peut comprendre. C'est très compliqué, très technique. Il faut vraiment savoir ce que vous soumettez et pourquoi. Il faut assurer que la conformité, et puis n'oubliez pas que il y aura toujours des exceptions à la règle. La variance IDN n'est pas actuellement soutenue dans cette version. Dans les caractères ASCII, petit a est exactement comme A majuscule, mais ce n'est pas le cas avec tous les scripts. La communauté maintenant essaie de trouver une solution à ce problème, et jusqu'à ce qu'on trouve une solution, il n'y a pas de variant IDN soutenu dans la première version de ces nouveaux GTLD. Il y a aussi une question concernant les variances. Il faut les énumérer pour vos différentes chaînes. Mais pour entrer davantage dans les détails techniques et pratiques, l'environnement est intéressant. Beaucoup de changements en Internet. On voit beaucoup plus d'importance sur le social, beaucoup plus de gens qui portent avec eux leur téléphone smartphone. Voilà les considérations potentielles qui pourraient nous concerner. Mais Chris, quelles sont ces considérations techniques et pratiques liées à ce nouveau système de noms? Bon, les considérations pour une chaîne sont simples à comprendre. Ils sont dans le candidat. 3 à 66 caractères. Pas de numéro, pas de symbole. Et si on entre dans l'espace IDN, il faut que ça soit conforme aux règles de IDN. Il faut IDN NFC form. Il faut savoir quel script vous voulez utiliser dans votre IDN et vous pouvez utiliser votre chaîne seulement utilisant des caractères d'un seul script. Vous ne pouvez pas, par exemple, mélanger les lettres chinoises aux caractères chinois et lettres arabes. Assurez-vous aussi que les caractères de votre chaîne viennent d'un script qui était écrit dans la même direction. Par exemple, on ne peut pas mélanger arabe avec l'anglais parce qu'ils vont dans deux directions différentes. Techniquement, votre chaîne ne pourrait pas travailler avec certaines applications sur Internet. .info, .biz, ceux qui ont utilisé ça, parce qu'il y a toujours des applications sur Internet qui présument qu'un nom de domaine doit terminer avec .com ou .net. Sinon, ça ne peut pas être un nom de domaine valable. Ça. Ces restrictions commencent à disparaître. Ils sont graduellement éliminés, mais quand même, il y a certaines applications qui ne partagent pas toutes vos présomptions. Vous devez également comprendre que les IDN sont nouveaux, pratiquement impossibles à envoyer un courriel IDN maintenant. Entrer dans les groupes de travail à ICANN, IDN, pour commencer à comprendre ces problèmes. Les noms ne sont pas montrés correctement dans les browsers. Les IDN, vous aurez le TLD pour toujours, mais au début, tout ce ne sera pas aussi utilisable que vous pouvez imaginer. Une autre chose, si vous avez un iPhone ou d'autres appareils, parce que il y aura des différences pour les utilisateurs. Pratiquement, j'ai divisé ce sujet en trois points. Il y a le facteur risque. Ils font penser à la similitude de votre chaîne à d'autres candidats, aux chaînes de d'autres candidats. Il ne faut pas choisir une chaîne qui va violer la marque déposée de quelqu'un d'autre. Aussi, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire une demande pour des termes géographiques. Et puis, il y a beaucoup de cas où Si vous avez un conflit avec une marque déposée et vous allez jusqu'à la fin du processus et puis la personne qui est propriétaire de la marque déposée fait une objection, vous n'allez pas forcément recevoir un remboursement. Alors, il faut être sûr de ce que vous faites parce que le remboursement ne sera pas toujours là. Faites attention aussi que quand vous choisissez une chaîne, les mots peuvent signifier quelque chose dont vous n'avez pas l'intention dans votre langue. Ça peut soulever une objection de la part des autres. Il y a certains mots, des mots anglais, que quand vous les prononcez dans d'autres mots, ça signifie autre chose. Et Internet est mondial, ces chaînes seront utilisées à travers le monde. Soyez conscient de ça. Ça, c'est un risque. Pensez à la durée de vie de votre chaîne. MP3, peut-être d'ici MP3, ça ne va pas exister. Peut-être qu'il y aura une autre technologie qui est 1000 fois meilleure. Pensez que votre chaîne, vous allez recevoir ça pour toujours. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui ou demain, c'est pour toujours. Vous voulez être sûr que la chaîne est utilisable pour très, très longtemps. Pensez à la prononciation de votre chaîne. Tout ça dépend de votre modèle commercial, bien sûr, mais il faut cette chaîne sera écrite, parlée, les gens vont le prononcer. C'est pas toujours. Il faut être sûr que votre chaîne fonctionne aussi avec les domaines potentiels qui seront registrés. Vous avez une auditoire cible. Essayez donc de vous conformer au sens compris par votre auditoire. Il y aura potentiellement de milliers de nouveaux GTLD et assurez-vous que votre GTLD va battre les autres dans la compétition. Alors voilà, c'est un sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que nous allons passer beaucoup de temps sur les objections, le fait que certaines chaînes ne pourraient peut-être pas fonctionner. Dans le manuel iCandy, soyez prudents. Faites attention parce que la chaîne que vous choisissez peut-être ne va pas fonctionner dans certaines applications. Assurez-vous que vous avez bien étudié ces différents risques avant de procéder. Puisque nous avons parlé de ceci, nommer, donner un nom au bébé, c'est la chose la plus difficile parfois quand vous avez un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose? Il y a des gens qui ont des marques déposées. Peut-être qu'ils vont faire une objection juridique. Il y a d'autres qui peuvent faire des objections pour des raisons morales, si le mot est vulgaire ou non. Vous devez vraiment faire beaucoup de recherches pour comprendre quel sera le risque lié à votre chaîne. Et ça va vous pousser peut-être dans une autre direction. Il est absolument essentiel. C'est pas simplement faire une recherche $500 aux États-Unis sur les marques déposées. Vous devez faire beaucoup plus de recherches. Il est impossible de faire une recherche mondiale parfaite, mais il faut quand même essayer de faire le maximum possible. Il y a deux types d'objections qui peuvent être soulevées pour votre chaîne. Le GAC peut poser une objection à toute chaîne, à toute demande qui est en violation des lois nationales ou des sensibilités locales. Ça, c'est dans le manuel. Mais aussi, il y a un autre processus d'objection formelle. N'importe qui dans le domaine public peut objecter à une demande, peut-être pour des raisons de confusion, la traduction dans différentes langues. Il y a des raisons juridiques, des raisons morales. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pour terminer, toutes ces objections vont vous faire sortir du flux normal. Présumons qu'il y a des centaines de demandes. Et vous devez prendre en considération le temps au marché et toute objection va vous faire sortir pendant six mois, huit mois minimum de ce course à voir votre nom enregistré. Discutons maintenant d'autres questions. Il y a la section existentielle du manuel, c'est la mission et l'objectif. Je fais référence à la section 18 et vous avez la possibilité de répondre aux questions importantes concernant votre sélection, quel commerce vous voulez gérer. Vous pouvez vous désigner comme communauté ou non. Il y a des avantages et des inconvénients de vous désigner comme demandeur de la communauté au lieu de commercial. Avant de commencer dans ce sujet, j'aimerais dire ceci. Les affirmations d'engagement qui parlent de ce programme comme bon, une prolongation de la concurrence, plus de choix pour le consommateur. C'est une opportunité ici pour vous de montrer comment votre candidature peut répondre de façon positive à ces idées. Votre demande va... Quelles sont les recommandations pour les stratégies pour répondre à cette question et comment voyez-vous que la réponse sera utilisée? Bon, on arrive maintenant aux questions amusantes. C'est la question la plus importante parce que, et vous devez trouver une réponse. C'est ce que de vous... Vous devez créer un processus d'évaluation. Il y a 5 groupes qui vont examiner cette question et examiner votre réponse. Les évaluateurs de ICANN, votre marché ciblé, c'est-à-dire qui seront votre registrar. 4e, les gouvernements. Et 5e, les médias, la presse. Le 1er mai, après la fermeture de la fenêtre pour les candidatures, il y aura une publication des demandes. Il y aura une liste de 500, par exemple. Les gens vont dire, bon, quels sont les meilleurs 10, quels sont les 10 les plus bas sur la liste. Il y aura tout de suite beaucoup de bruit autour de votre demande. Et vous devez donc être clair en vous expliquer ce que vous voulez faire. Les évaluateurs aussi vont essayer de comprendre ce que vous faites, quelles sont vos réponses techniques et financières. C'est très critique. Vous gagnez, vous perdez selon vos réponses. Une autre partie est que ce que nous avons ajouté dans la dernière révision du manuel pour répondre aux questions économiques de vos GTLD, quel est le coût social et quel est l'avantage? Vous devez communiquer avec les communautés et les expliquer pourquoi votre GTLD sera bénéfique. Il y aura un temps limité d'espace. Il faut écrire soigneusement. Mais je pense que c'est la question la plus importante. C'est le cœur de votre demande et tout doit être construit là-dessus. Moi, je travaille pour un type marketing qui me disait si j'avais plus de temps, j'écrirais une réponse plus brève, c'est-à-dire être plus succincte, plus brève, plus claire. C'est un domaine très important en ce qui concerne le marketing de votre GTLD et comment vous vous présentez au marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait commenter avant de parler de la communauté? Sarah, d'abord. Merci, Fred. Les réponses à ces questions vont aider ICANN à déterminer quels GTLD ont donné beaucoup d'avantages à leur communauté. Je voulais indiquer aussi que c'est intéressant. Cette question, bien que ça établit un contexte pour la réponse à toutes les autres questions, mais cette question a très peu d'impact sur le score, mais ça aide à donner du contexte à toutes les autres réponses de la demande. Et bien que ça ne reçoit pas de score, ils vont l'examiner pour voir si c'est complet. Et votre demande peut être rejetée si vous ne répondez pas entièrement, complètement à chaque question. Il y a des questions qui sont difficiles. Quels sont les coûts sociaux? Quels sont les inconvénients? Il y a des ressources qui sont disponibles. Vous devez les examiner. Minds et Machines offrent une excellente étude que vous pouvez utiliser. Il faut examiner toutes ces différentes études pour savoir comment évaluer ce que vous essayez de faire. Il y aura les comportements de spéculation, les comportements de choix et de défense. Et on vous demandera de quantifier ces coûts. Et bien que on ne donnera pas un score, mais tous les sentiments, vous allez être jugé, qu'il soit donné un score ou non, on vous jugera. Vous devez donc être prudent. Bon, avant de parler communauté, il y a beaucoup de boutons chauds privacy, par exemple. Le privacy, il faut décrire comment vous allez protéger vos registres en les questions de privacy. Est-ce qu'on peut parler communauté maintenant? Bon, on en parle. C'est un des objectifs du programme, c'est-à-dire d'ouvrir le système des noms de domaine pour soutenir différents types de communautés. Et c'est une excellente opportunité d'offrir cette opportunité aux communautés pour qu'ils soient plus actifs sur le web, de faire plus de demandes. Et il y a beaucoup d'avantages de choisir d'être une communauté, et ça vient également avec des responsabilités. Cette section vous permet, la section 19 et 20, vous permet de choisir que vous voulez faire la demande en tant que communauté. Dans un monde idéal, tous ceux qui font une demande pour un GTLD vont recevoir un. Et il y a des chaînes qui seront plus populaires que d'autres. Et s'ils sont génériques, ils vont être vendus aux enchères. Maïkan a également identifié cette communauté et la préférence comme façon de démontrer que vous avez le soutien d'un groupe d'intérêt. Il ne faut pas le prendre à la légère. Si vous avez l'intention de faire une demande au mois de janvier, comme il faut avoir obtenu le soutien de la communauté. Parce que dans le manuel, il y a une section très détaillée comment vous devez montrer votre soutien de la communauté. La façon qu'on pèse les demandes, le domaine le plus potentiellement le plus risqué, c'est le gaming. Ça sera probablement un des domaines de disputes les plus importantes. On voit des disputes avec Dot Jobs. Ce sont des disputes basées dans la communauté et on va en voir beaucoup. Ça pourrait se produire à n'importe quelle demande. C'est un sujet très intéressant. Certaines choses qui m'intéressent beaucoup quand je regarde le questionnaire. On vous demande mais comment est-ce que la communauté est délignée? Est-ce qu'il est clair dans sa délignation? Certaines communautés ne sont pas bien définies. Comment sont-ils structurés? Et à certaines complexités, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait parler davantage de communauté avant de parler de la relation avec la communauté. Mike, oui, absolument. Il sera difficile, très difficile, de prouver que vous êtes une communauté, que vous vous basez sur une communauté. Dans le manuel, vous avertit que les demandes communautaires sont censés être une catégorie très étroite. Donc, à savoir si vous êtes une communauté ou non, il faut obtenir 14 jusqu'à 16 points. Si vous parlez d'une communauté simplement pour avoir un mot générique qui est très recherché, faites attention. Si vous tombez en difficulté avec les critères d'évaluation, ça serait difficile à démontrer. Mais si vous perdez 2 points, il faut avoir répondu parfaitement à tous les autres 14. Et s'il y a 2 autres groupes qui font la même demande, vous perdez 1 point. S'il y a 2 groupes non négligeables qui s'opposent à vous, vous perdez un autre point et puis vous perdez votre demande. Il me semble que les mots génériques ne vont pas se qualifier. J'ajoute ceci. Vous devez montrer vos politiques pour la vérification de la sécurité. Difficile. C'est l'intention de, c'est de vous limiter votre auditoire au lieu d'avoir une énorme audience. Et n'oubliez pas que vous devez vivre avec ces règles pendant toute la durée de votre domaine. Et ça sera très difficile de changer les règles par la suite. En plus, souvenez-vous que l'administration de ces politiques ont un coût. Assurez-vous que votre demande est cohérente de section à section. Il faut que les structures de coûts reflètent l'administration accrue de ces politiques. J'ajoute ceci. Tous ceux qui veulent faire une demande en tant que communauté, ici, parfois les gens tombent dans la confusion. Ils pensent que s'ils optent pour une évaluation prioritaire de communauté, il n'y aura pas de vente aux enchères. Mais souvent, plus d'une partie peut recevoir plus de 14 points. Et vous pouvez toujours être dans une situation de vente aux enchères et avoir le coût de gérer ces politiques. Tout ça, c'est juste pour suivre ce que John a dit. Et puis, il y a des frais associés à l'évaluation de la candidature en tant que communauté. Parlons maintenant de l'aspect géographique. On a parlé récemment de noms de villes, de régions. C'est une possibilité pour les gens de se rallier autour de leur drapeau, obtenir des registrations autour des noms géographiques. Il y a point Berlin, point New York. Comment est-ce qu'un candidat établit son éligibilité pour un nom géographique? Et est-ce qu'il y a un risque que des communautés similaires objectent? Moi, je ne pense pas que je vais répondre à cette question. Alors, Monsieur McCarthy. Bon, la question est celle-ci. Le GAC insiste à réserver des noms géographiques, pas les réserver, mais avoir des règles spéciales pour l'allocation, l'attribution de ces noms. Et ça comprend des noms ISO, il y a des formes courtes, la forme longue. Il y a d'autres connus communément comme... Il y a une opportunité pour vous de faire une demande pour les noms géographiques, mais il faut obtenir le soutien des gouvernements ou des administrations locales qui vont subir l'impact. Il ne faut pas sous-estimer l'effort nécessaire pour obtenir le soutien d'une administration locale ou d'un gouvernement pour obtenir le nom. Il ne faut pas le prendre à la légère. Parfois, les gouvernements ne veulent pas prendre des décisions. Peut-être il n'y aura pas d'objection, il y aura du silence, mais vous êtes en danger si vous décidez de procéder sans avoir le soutien de l'administration locale. N'oubliez pas que la chaîne pour laquelle vous faites une demande, même si c'est générique, que ça ne soit pas la traduction d'un nom géographique, parce que ça, c'est une objection possible si le nom est simplement une traduction d'un nom dans une autre langue. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de noms de produits qui ont adopté des désignations géographiques comme nom de produit. Je pense à langage, plateforme de soutien qui tombe dans cette catégorie. Et c'est là où on pourrait voir des disputes potentielles. La section suivante qu'il faut discuter, ce sont les services au registre. C'est au cœur de comment votre GTLD sera géré. Du point de vue technique, les réponses aux questions 23 et questions suivantes, quels services seront offerts? des choses qui sont difficiles pour les entrepreneurs à considérer. Et comment vont-ils répondre à ces questions et comment vont-ils se préparer pour répondre? Seront-ils obligés d'avoir recours à fournisseurs de registres externes? Mais commençons avec Sarah. Bon, la réponse à la question 23, c'est pour cela que pourquoi devez-vous décrire vos services? Définissons donc services de registre. C'est les données passées entre registraire et registre concernant les registrations. Par exemple, la dissémination des dossiers zones et la sécurité qui est liée à cela. Et n'importe quel service que seul l'opérateur de registre est capable de fournir. Parce que, à cause de sa désignation, et pour revenir à ce qu'a dit Chris, cette question ne reçoit pas un score, mais je souligne quand même qu'il est très important de prendre le temps de répondre bien à cette question, parce que ça forme la base pour tout le reste de la section sur l'opérabilité. Il est essentiel donc de vous conformer avec les composants sécurité conçus pour protéger les données entre le registre et le registraire et de protéger ces données d'un accès non autorisé. Il est important aussi de donner une description complète de vos services. Ne vous focalisez pas tant sur le quoi, mais sur le comment. Je recommande donc que tous ceux qui répondent à cette question aient de faire une liste de chacun de vos services de registre. Faites une liste des composants techniques, les composants commerciaux et les risques qui sont associés, comment vous allez les mitiger, et utilisez ça comme le cadre pour répondre à toutes les autres sections. Si vos services de registre nécessitent davantage d'analyse, ils seront considérés par le panel d'évaluation des services techniques. Ce n'est pas seulement pour les nouveaux GTLD, mais même ceux qui existent déjà doivent passer par ce processus lorsqu'ils font une demande. Je vous donne un exemple des services soumis par VeriSign. Il y a le lock, le verrouillage qui est nécessaire pour toute autorisation pour des changements au domaine, nom de domaine de deuxième niveau. Un autre exemple, c'est pas seulement limité au nouveau GTLD, mais nécessaire aussi pour les anciens GTLD. Conformez-vous donc à tous les RFC et à toutes les normes du secteur. Et si vous avez une idée qu'il y a un risque que vous devez considérer, c'est votre choix. Enfin, c'est votre responsabilité de connaître les réponses, connaître le score et puis faire une analyse des risques d'utiliser vos propres services par rapport au service d'un fournisseur technique de service. Comprenez bien la différence entre les différences que vous pouvez fournir par rapport à ce qu'ils peuvent fournir. Comparez les scores, faites une analyse de coûts avantages et décidez si vous allez faire ça chez vous ou bien à l'extérieur. Examinez les risques. Pensez aux frais majeurs. Les frais majeurs seront le système d'approvisionnement, le SRS, le système partagé de registration. Le who is, la capacité de vous conformer techniquement avec toutes les exigences qu'ils doivent mettre en place. Tout ce que vous devez faire pour être conformément à escrow. Faites l'analyse des risques. Faites une analyse des coûts-bénéfices. Et si vous le faites bien, ça va vous mener à la bonne décision pour votre demande.
Je crois qu'il y a très peu d'organismes qui font cela et qui ont de son seul face aux services techniques. Je crois qu'ils demandent tous une aide de partie tierce au niveau technique pour avoir un soutien. Moi, je crois que Tom voulait intervenir. Oui, bien. Nous identifions. Nous décidons. Ils peuvent décider de ce qu'ils veulent révéler. Parce que s'ils ne révèlent pas assez. Au début, ils vont devoir revenir à ICANN et donc révéler un petit peu tout ce qui doit être mis en œuvre. Et c'est un problème pour votre plan commercial. Donc, je crois que si vous voulez donner plus d'informations sur votre plan commercial dès le début, ça peut être tout à fait positif. Eh bien, on a la question 24 à 44. Problème opérationnel. C'est comme de fournir un partenaire. Quelles sont les considérations pour choisir cela? Oui, eh bien, je crois qu'il y a différents points sur lesquels on doit réfléchir. Donc, l'expérience va être très importante. Donc, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelque chose que vous payez au minimum 185 000 $, et vous allez dépenser bien plus de 185 000 $ pour obtenir cela. Donc, les processus techniques complexes également doivent être pris en compte, et ils doivent fonctionner tel que prévu. L'ICANN a donc des contrats. Et si vous n'êtes pas en mesure de réserver ces contrats, eh bien, si vous n'êtes pas en mesure de vous conformer à ces contrats, l'ICANN va vous faire des problèmes. Ça va être un processus très complexe, mais on pourrait retirer éventuellement votre nom de domaine. Ça peut aller jusque-là. Donc, je crois que ça peut être également très difficile de travailler au niveau du paysage de l'ICANN. Donc on doit être familier avec ce qui doit être effectué pour se conformer aux lignes de conduite ICANN et que ICANN soit satisfait, tout simplement. Donc la stabilité est également importante. Il faut vous assurer que on vous fasse confiance. En ce qui concerne la stabilité, la sécurité de tout cela, il faut fournir une bonne expérience à vos consommateurs. Et il y a des registraires qui peuvent être relativement frustrés lorsqu'ils ne peuvent pas se connecter. Et cela va avoir un impact négatif sur votre image. Donc, la flexibilité est également très importante. Il y a beaucoup de TLD qui vont sortir et il y a différents modèles commerciaux, différentes manières de se différencier. Et donc, il faut s'assurer que nous soyons flexibles et il faut s'assurer que nous soyons en mesure d'être novateurs. Et il y a d'autres points également sur lesquels nous devons mettre l'accent. Nous devons nous assurer que nous ayons un organisme qui soit spécialisé dans ce domaine, et nous devons faire partie de ce processus TLD. Il faut trouver un partenaire qui a véritablement la possibilité de naviguer ce domaine si complexe. Et très bien, Chris. Donc, passons au point suivant. Pour que nous parlions de l'abus, la limitation des abus, tout particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de protection des droits. Je crois qu'il y avait deux ou trois groupes qui ont été créés. le IRT et d'autres pour répondre à certains de ces problèmes. Et certainement, le GAC a été très actif à ce niveau. Et donc, quels sont les critères minimums pour les mécanismes de protection des droits et comment une organisation peut-elle décider de les mettre en place? Eh bien, avec le récent manuel, tous les TLD doivent offrir une période de transition ainsi que des demandes de nom de domaine. Il doit y avoir également d'autres mécanismes de protection des droits qui doivent être mis en place et en fait obtenir des points supplémentaires est une manière de promouvoir la précision du who is et de faire de la protection des droits un de vos objectifs essentiels. Ce qui est très important ici lorsque vous faites votre budget, c'est que l'ICANN a déclaré que le centre d'information des enseignes, des marques, il faut donc ne pas oublier d'inclure une liste, au moins une liste sur votre budget et à ce moment-là, il y a un coût défini pour les registres, pour la marque de fabrique, pour le centre d'information également, pour les marques déposées. Donc Marc, vous voulez ajouter quelque chose à cela ? Ah oui, je veux m'exprimer à ce sujet, sur ce domaine. Oui, bien sûr, Mike Thompson, c'est véritablement pour moi une opportunité que de dépasser un petit peu tout cela et d'être positif, d'être plus en sécurité et d'être plus attirant pour beaucoup de registraires. Donc, vous pouvez voir quelle est la vérification, la fonctionnalité. Vous pouvez obtenir des points supplémentaires, vous pouvez être plus précis, vous pouvez avoir de l'anti-phishing. Vous devez véritablement mettre en œuvre ces suspensions, ces processus de suspension rapide pour les marques de fabrique. Et il doit y avoir des critères en place pour l'utilisation frauduleuse des noms de domaine et une catégorie en général pour la restriction des contenus. Je crois que vous voulez avoir des règles dans votre TLD pour que ça ne devienne pas un point com où il y a beaucoup de spéculation sur l'industrie et ce sont des règles que vous devez prendre en compte en avance. Oui, merci Mike. Question sur la sécurité. Il y a eu beaucoup de séances sur la sécurité. Il y a eu la section DNSSEC. Et vraiment, c'est un thème très important qu'il faut régler. Je crois qu'il y a également une question technique qui peut être faite, peut être réglée. Je crois qu'on peut également poursuivre là-dessus. Je voudrais passer quelques temps sur cette section financière, les capacités financières. Je crois que c'est une section très importante du manuel et je crois que il doit y avoir des bilans, il doit y avoir des cash flows, une trésorerie, il doit y avoir également un audit, un contrôle, une vérification des comptes effectués. Il faut qu'il y ait un auditeur qui se penche sur vos comptes. Je crois que, John, vous pouvez nous parler un petit peu du processus commercial pour obtenir un TLD. Oui, je serais très heureux de répondre à cette question. Eh oui. Eh bien, pour revenir un petit peu sur le contexte de la question financière, de l'évaluation de cela, de la manière dont ces questions sont... 45, la question 45 à 49, on vous indique quelles sont les capacités financières de l'entité sur 46. Vous avez le proforma lui-même, donc il faut être très clair à ce niveau. Vous avez 46, 47, 49, donc vous avez les aspects financiers et vous avez la manière. Donc comment est-ce que vous comprenez vos coûts? Comment est-ce que vous vous allez financer les revenus et comment est-ce que vous comprenez les problèmes? Donc, les évaluateurs essayent d'enregistrer et de comprendre comment on peut se trouver dans une position financière conservatrice. Parce que lorsque vous lisez les notes et les critères, eh bien, cela nous indique, est-ce qu'il y a un financement dans les comptes financiers ou bien est-ce que vous vous basez sur des revenus provenant des opérations pour travailler à ce niveau? Et je peux vous dire que si vous travaillez sur un modèle low cost et qu'il y ait, il y en ait deux ou trois, je crois que cela peut être vu d'une manière moins favorable. Et je crois que le revenu que vous avez généré est supplémentaire par rapport à ça. Donc pour revenir à la question 18, vous voulez être clair sur la question 18, sur votre mission et votre vision pour demander comment vous pouvez indiquer votre plan de revenu, comment vous allez gagner de l'argent, comment vous pouvez vous comparer avec d'autres lancements. Donc les normes que vous allez utiliser, ça va être de montrer ces anciens TLD et voir comment d'anciens JGD TLD ont obtenu un volume avec le temps et ou avoir d'autres études de marché qui expliquent pourquoi vos projections sont valides. Projections financières, parce que ça va être très important à ce niveau. Merci beaucoup, c'était une très bonne réponse à la question. J'ai entendu beaucoup de débats à ce sujet sur les modèles de distribution et je voulais savoir, est-ce que quelqu'un voudrait parler de cela? Comment est-ce que l'on arrive, on met sur le marché son TLD? Oui, je crois qu'il y a des canaux de distribution, c'est très clair. Vous pouvez utiliser des registraires ICANN, mais vous devez, c'est votre canal de vente en fait. Donc il faut être très prudent et il va y avoir peu de temps. Il y a un espace sur l'étagère qui est limité et vous pouvez décider simplement de travailler avec quelques-uns d'entre eux. Mais vous pouvez décider que l'intégration verticale est une réalité. Et vous pouvez devenir votre propre registraire, essayer de créer votre propre canal de cette manière. Et je pense que c'est une grande considération. Et ça vaut la peine de regarder les anciennes TLD une nouvelle fois pour voir lesquelles on pourra utiliser. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous parlez un petit peu plus près de votre micro parce que on ne vous entend pas, monsieur? Allez-y, John. Oui, vous devez avoir 8 points sur cette section et donc vous devez avoir 2 sur 47, 48, 49 ou avoir 3 sur 50. Et je crois que Sarah va parler de quelques points au sujet de la question 50, mais vous allez voir à quel point votre plan commercial doit être agressif ou conservateur. Et vous pouvez voir qu'il y a des cas, et nous demandons de voir, pour les évaluateurs, les gammes qui existent pour les plans de secours, et est-ce que vous allez planifier cela? Donc, le nouveau DAG, ce qu'on appelle le DAG, qui est ce guide, le guide DAG, le mode d'emploi DAG pour ces candidats au nouveau nom de domaine vont vous permettre de parler de vos investissements. Dans ce processus de demande, il y a une grande transparence et on s'attend à ce que ICANN travaille en transparence. Oui, très bien. Donc, pour que vous soyez conscient dans le public et à l'extérieur. On va bientôt être en mesure de répondre à vos questions. Donc, Soyez patient, s'il vous plaît. Nous allons bientôt terminer notre présentation et nous allons passer aux questions, d'accord? Donc, je vais essayer d'être rapide, d'être bref sur la réponse à cette question. Donc, il y a plusieurs considérations commerciales auxquelles vous devez réfléchir. Quelles sont vos lignes de conduite? Quel est le potentiel qui existe? Cela revient, si vous voulez, au nom de domaine. Il y a beaucoup de coûts techniques qui existent par rapport à l'outsourcing, par exemple, aux différents canaux. Comment vous allez arriver au marché? Comment est-ce que vous êtes travaillé avec les registraires? Quelles ressources allez-vous utiliser pour se faire? Comment vous allez faire votre marketing? Comment vous allez vous faire connaître? Comment vous allez faire connaître votre nom de domaine, de vendre, et ainsi de suite? Et donc, si vous passez par une vente aux enchères, vous allez avoir besoin de beaucoup de fonds, d'investissements sérieux. Donc, décrire tout cela à l'ICANN va être très difficile. Et quels sont les coûts financiers? On sait que ça revient en arrivant à 185 000 dollars, mais ça va aller plus loin parce que vous avez besoin de consultants, vous avez besoin de parties tierces, vous avez des consultants, besoin de personnes qui vont vous aider. Vous avez besoin d'avoir beaucoup de services à ce niveau. Comment est-ce que vous allez donc pouvoir prendre tout cela en compte, tous ces aspects financiers, ces investissements? Et vraiment, il faut prendre en compte tout ce qui est considéré lorsque l'on écrit un plan commercial. Quels sont vos objectifs? Retour sur investissement, est-ce que vous avez été réaliste par rapport à vos projections, et ainsi de suite, blablabla. Et donc, vous avez beaucoup d'engagements financiers. Réfléchissez bien à cela. Vous devez vous assurer de bien tout comprendre. Ce n'est pas seulement 185 000 dollars. Croyez-moi, vous allez dépasser cette somme très rapidement. Oui, en fait, vous devez avoir une ligne de crédit irrévocable pour ce faire. Donc, vous allez donc devoir, comme on dit, avancer des fonds. Est-ce que vous voudriez rajouter quelques points avant que l'on passe à la section suivante? Donc, enfin, la dernière question, avant que l'on réponde à vos questions, point de vue technique. Donc, quelle est la meilleure approche pour répondre à ces questions? Donc, je serai brève, parce que nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Mais il y a 5 domaines critiques. Vous avez la résolution DNS, vous avez ces services DNS provisionnels, également les rapports d'escrocs, la maintenance de la zone affectée, les critères DNS SEC, et tout cela a rapport à vos registraires et registrants. Il est extrêmement important que vous ayez 3 points ici. Vous devez avoir une lettre de crédit qui doit être fournie. Vous devez donc avoir un escroc de trésorerie irrévocable pour 3 ans de fonctionnement. Et ça, c'est absolument essentiel. S'il y a un problème à un de ces niveaux, eh bien, votre registre, votre désignation de registre va être éventuellement remise en question. Et vous devez être en mesure de fonctionner dans ces 5 domaines critiques. Donc, maintenant, j'ai quelques questions. Et si vous avez des questions, venez au micro, s'il vous plaît. Et Je crois que, Carole, vous avez des problèmes éventuels. Je crois qu'il y a des personnes en ligne aussi qui veulent lui poser des questions. Oui, la première question vient de Denis Yonker. Notre DAG nous indique que les NGOs ont éventuellement un problème légal qui doit être réglé pour les noms de domaine. Et les dépositaires de dossiers doivent avoir la liste des acronymes et doivent donc être protégés par l'article 6 de la Convention de Paris. Donc, ah oui, c'est très technique. C'est une première question très technique, je dois dire. Je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas si on est en mesure d'y répondre, s'il y a quelqu'un de l'ICANN, du personnel de l'ICANN, qui est peut-être en mesure de répondre à cette question extrêmement technique. Je crois que dans le DAG, dans notre mode d'emploi, nous avons la liste, je crois, de ce qui compose véritablement ces noms. Et je ne sais pas si il y a des références spécifiques à la liste NGO. Oui, je crois que c'est le cas. Oui, je crois qu'il faut se référer au document et qu'il y a vraiment tout dans ce très long document que vous avez. Oui, question. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Chinovski de Dot Berlin. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent encore et point trademark, Dot compagnie, quoi, avec un nom d'entreprise, un nom de marque. Quoi que ce soit. Et donc, est-ce qu'il y a un dossier de demande standard ou comment on fait au niveau de la communauté? Si on veut déposer un dossier au niveau de la communauté, certains d'entre nous sont très locaux. Ils représentent une communauté ou ils représentent une municipalité, une ville. Donc, comment est-ce que l'on fait si on n'est pas véritablement une grande entreprise qui veut avoir accès à un nom de domaine? Comment est-ce qu'on utilise le DAG, le mode d'emploi? C'est un petit peu ce que je cherche à savoir. Eh bien, je crois que Thomas va répondre. Oui, ma première impression est que si ils ont la marque déposée, ils n'auront pas de problème, rien ne sera contesté et par exemple, Canon pour les caméras ou IBM. Oui, attendez, mais ce n'est pas exactement ma question. Il y a quelques années, il y a Sun qui était en compétition. Et je crois que ça peut être peut-être à l'avantage d'une entreprise d'utiliser une communauté. Les utilisateurs d'un produit technique, par exemple. Oui, eh bien, en fait, dans le questionnaire, j'essaie de trouver parmi toutes ces pages, j'ai pris des notes. Comment est-ce que nous définissons un petit peu une communauté? Bon, il faut définir les attributs de cette communauté, démontrer le fait que vous soyez structuré, que vous avez un rapport avec cette communauté. Vous avez besoin d'une réponse verbale pour cela et vous devez maintenir également une certaine responsabilité pour identifier et prouver que vous êtes bien membre de cette collectivité. Donc, vous devez choisir si vous allez être au niveau standard, au niveau de la base communautaire, tout particulièrement si vous savez qu'il y a des risques de litige. Cela permettra de trouver une stratégie le plus tôt possible. Et pour Dot Brand, Point Brand, cela a été défini et cela vous permet d'inscrire vous-même votre entreprise ou votre partenaire commercial et vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'utiliser les registraires accrédités par l'ICANN et vous avez d'autres options pour Dot Brand, par exemple. Donc, je crois que nous avons une autre question en ligne pour Carole. La question suivante, qu'est-ce qui se passe si une nouvelle entreprise demande l'historique financier, qu'est-ce qui veut répondre à cela? Eh bien, cela On s'attend à ce qu'il y ait des entreprises qui fournissent des informations. Il faut qu'ils fournissent ces informations dans leur dossier de demande pour indiquer comment ils sont formés. Donc, quelle est la structure et les changements de structure à la suite de la phase d'évaluation? Je sais qu'il faut en informer ICANN, mais est-ce que ça a un impact sur le dossier de demande?
Ça serait difficile. Ma réponse, c'est pour cela que ICANN vous demande de fournir l'information. Évidemment, si après la demande, une décision est prise avant de faire la vente aux enchères, deux parties peuvent décider de venir ensemble, échanger la structure formelle de la titularité et toutes sortes de choses qui pourraient se produire dans ce changement matériel et il faudrait les évaluer. Il me semble, si je m'en souviens bien, des compagnies Shell sont découragées de faire des demandes. Une dernière question, peut-être à la dernière cause du temps. Pouvez-vous fournir une estimation, en plus des 185 000 $, quel autre argent sera nécessaire pour un nouveau GTLD? Moi, je vais vous donner la réponse. Typique d'un avocat, ça dépend. Ça dépend de votre modèle commercial, ça dépend des modèles des autres dans votre secteur. Il y a toutes sortes de réponses qu'on pourrait vous donner, mais au moins 2x et beaucoup plus dans plusieurs cas. J'ai entendu beaucoup de chiffres. Vous allez voir qu'il y a au moins 3 fois le coût de votre budget opérationnel. Bon, je tiens à remercier tout le monde. Il faut qu'on termine. Il y a une autre session qui arrive. Remerciements aux membres de mon panel. Merci au personnel et Carla et autres pour avoir organisé cela, aux interprètes aussi, et merci d'être venus.